Bonjour à toutes et à tous. Très heureux. Bonjour, vous êtes là ? Ouais, ok. Vous avez atterri, comme il a dit, le frère. Très heureux d'être avec vous, de découvrir l'église. Hein. Je vois. Alors, je vois pas très clair, mais je vois que c'est quand même bien rempli. Donc, j'ai eu la joie de connaître plusieurs d'entre vous depuis un an à peu près, grâce à la formation Equip. Donc pour les leaders, et puis merci en tout cas pour l'invitation d'être avec vous pour le culte. Je suis avec Fabienne, tu peux te lever? Alors vous l'avez compris, c'est ma femme. Voilà, ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais ça fait 41 ans et demi qu'on est mariés. Donc nous eûmes 6 enfants, et on vient d'avoir le 12e petit là, il y a 3 jours. Donc voilà, c'est normal, on a vécu en Afrique, donc en Afrique, avoir beaucoup d'enfants, c'est habituel. Donc il y a, juste partager cela, mais quand moi j'avais quelques mois de conversion, je me suis converti, j'étais étudiant, donc à Grenoble, c'est pas loin d'ici. J'étais élève éducateur spécialisé ma dernière année, et donc après avoir cherché le Seigneur, je venais d'une famille traditionnelle, religieuse. Je connaissais Dieu, Jésus, depuis que j'étais gamin, mais je n'avais pas rencontré Jésus. Et j'avais une connaissance religieuse, puis j'ai lu la Bible à l'âge de 15 ans, 16 ans, je me suis acheté une Bible, j'ai commencé à lire l'Évangile, je cherchais des gens qui vivaient l'Évangile. Je me rendais compte que dans la religion de mes parents, on était loin du modèle que je voyais surtout dans les évangiles et dans la première église. Et puis donc, j'ai vraiment, le Seigneur est venu me chercher un moment où j'ai mis les pieds dans un baptême dans une église évangélique. J'ai donné ma vie à Jésus et quelques temps, je me suis fait baptiser quelques semaines plus tard. Et un dimanche matin, donc, on était à Grenoble. Et au culte, c'était un missionnaire qui prenait la parole. Et je ne savais pas ce que c'était, j'en avais jamais vu. Donc un monsieur de 50 ans qui avait parcouru l'Afrique. Donc on est en 1981, hein, la plupart ici, vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas de ce monde. Et il raconte ce qu'il avait vécu les 10 années d'avant en Côte d'Ivoire, au Gabon. C'est un évangéliste hein, qui remplissait les stades avec beaucoup de guérison et tout. Mais à la fin, donc il a prêché sur les derniers versets de l'évangile de Matthieu. Allez par tout le monde, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Et à la fin, il se tourne vers le groupe de jeunes. On était, je pense, une cinquantaine de jeunes. Et pour la plupart, comme moi, qui venais du monde. Et on n'avait pas grandi dans l'église. Et il s'est tourné vers le monde, vers nous, et il a dit, voilà, Dieu cherche ce matin des jeunes gens qui sont prêts à aller prêcher l'évangile là où Dieu les enverra. Dans les larmes, la sueur et le sang. C'était le programme. Les larmes, la sueur et le sang. Donc, inutile de vous dire qu'on n'était pas très nombreux debout. Mais je me suis levé. Vraiment, je pleurais. En écoutant son message, ça m'avait vraiment touché. Je pleurais, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Mais en sortant du culte, ce jour-là, j'ai su deux choses. La première, c'est qu'un jour, je lâcherai mon travail, que j'aimais bien. J'étais donc éducateur, éduxpé. Je lâcherai mon travail pour aller prêcher l'évangile. Et la deuxième chose, c'est que ça serait loin. Et j'avais le sentiment, je ne sais pas, il nous avait parlé de l'Afrique, donc j'avais le sentiment que ce serait par là-bas. Et donc, quand je suis allé voir Fabienne 2 ans après pour lui demander le mariage, on s'est élevé en fait au même appel. Donc on avait la même chose. Et Dieu merci, je n'avais pas été appelé au Groenland, elle, en Afrique, mais on était appelé au même endroit. Donc, on est parti, donc on s'est marié, puis on est parti 3 ans plus tard. Donc, on a fait 18 ans en Afrique centrale, République centrafricaine, Congo, Brazzaville et Tchad. On a fini les dernières années au Tchad, dans un pays très chaud, musulman majoritairement. Donc, ça nous a permis de comprendre aussi comment on implante des églises en milieu musulman. Et puis on est rentré en 2004 et le Seigneur nous a renvoyé dans un pays missionnaire qui s'appelle la France. Donc on est revenu, on s'est rendu compte après, ouais, sérieusement, après presque 20 ans d'absence, 18 ans, donc on s'est rendu compte qu'il y avait un boulot énorme, que notre pays avait tellement changé et qu'il change continuellement et qu'il y avait vraiment un travail à faire. Donc on est revenu à Grenoble, on était à Lyon dans l'implantation d'église. Pour faire court, on s'est concentré ces dernières années, on a laissé les places de leadership d'église locale, donc à Grenoble, pour se consacrer aux nouvelles générations. Il y a plus de 10 ans maintenant, surtout quand on a eu nos premiers petits-enfants, ça a été un choc d'abord. On s'est rendu compte qu'on avait pris de l'âge, mais surtout, le Seigneur nous a parlé sur la transmission. Il dit, maintenant, vous avez été dans les première ligne. Maintenant, il faut vous reculer, il faut laisser monter les jeunes générations et simplement les accompagner. Donc, depuis plusieurs années maintenant, on accompagne beaucoup de gens dans le mentorat. Donc, soit des gens qui implantent des églises en France, et soit des jeunes pasteurs qui prennent des relais d'églises plus anciennes. Et puis, on a un gros tiers de notre travail qui est toujours en mission. Donc moi, je retourne régulièrement sur l'Afrique. Et on travaille avec une mission qui s'appelle Frontiers, donc qui est spécialisée dans l'envoi de gens dans le milieu musulman, là où c'est fermé, là où toutes les portes sont fermées, où on ne peut pas envoyer de visa, on peut pas avoir de visa missionnaire, rien du tout. Mais il y a toujours des petites fenêtres qui sont ouvertes, des lucarnes, hein, où on peut envoyer des gens par le biais de leur travail, donc ce qu'on appelle des faiseurs de tentes, hein, des gens qui ont un métier, qui sont dans une ONG ou qui sont entrepreneurs et qui ouvrent un business, par exemple à Riyad en Arabie Saoudite, ou autrefois à Kaboul, maintenant on ne peut plus, mais ou en Iran, ou dans des pays d'Afrique du Nord, etc., là où réellement on peut pas, où l'islam est fort. J'aimerais juste vous dire quelque chose, parce qu'on est en plein Ramadan, je ne sais pas si vous êtes au courant. L'Occident est un pays où l'islam s'étend, et où l'islam a beaucoup de prétentions. Mais ce qu'on ne nous dit pas, ou très très peu en tout cas, c'est que dans les pays même où l'islam est dominant depuis des siècles, il y a une fracture énorme, des conversions en masse. Rien qu'en Iran, pourtant qui est un des flambeaux de l'islamisme aujourd'hui, il y a plus d'un million de chrétiens souterrains. Alors ils payent le prix cher. Les larmes, la sueur et le sang, ils savent ce que c'est, eux. Donc ils payent un prix fort, mais si aujourd'hui la majorité des pays islamiques n'étaient pas des dictatures, on serait surpris de voir la poussée de la foi chrétienne dans ces endroits. Donc je vous dis ça simplement pour vous encourager à prier pour ça et à pas vous décourager, et que les musulmans aussi, je suis étonné chaque année parce que on voyage dans beaucoup d'églises, mais y compris en France, Dieu se révèle de façon surnaturelle à beaucoup de musulmans. Et pendant qu'on est là, pendant ce temps de Ramadan, priez pour que Dieu se révèle à eux. Combien j'ai vu, y compris ici, dans notre pays de France, des Nord-Africains ou des gens venant de pays du Moyen-Orient, etc., hein, qui pendant le Ramadan cherchaient sincèrement Dieu, ils ont cherché sincèrement, et c'est sincèrement Jésus qui est venu. Dans une vision, dans un rêve, d'une manière particulière. Alors, il ne suffit pas de prier pour qu'ils aient des rêves, il faut prier aussi pour qu'il y ait des disciples de Jésus qui viennent à leur rencontre. Amen. Voilà, donc mon thème ce matin, voilà, culte, donc merci pour le diaporama. Je voudrais ce matin vous parler d'Éphèse en tant que base apostolique. L'Église en France, moi j'ai beaucoup de foi sur ce que Dieu est en train de faire dans notre pays. Merci pour les deux qui ont dit amen. Je répète, j'ai beaucoup de foi et d'espérance. Il y avait donc ma femme dans les deux, oui. Beaucoup de foi, de joie, de voir, il y a une fenêtre ouverte sur la France. Je voudrais que vous soyez, voilà, je vois qu'il y a des convaincus quand même. Donc, il y a une fenêtre ouverte pour l'évangile dans notre pays. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais on a une grande liberté. Honnêtement, pour voyager dans des pays, être allé dans des pays où la liberté est sérieusement cloisonnée, restreinte, on a encore une grande liberté, on peut aller dans la rue, vous pouvez être là ce matin, on ne va pas vous mettre en prison parce que vous avez une Bible dans la main et parce que vous êtes venu au culte. Donc nous avons une grande opportunité, et y a, l'évangile est pour tous, hein, pour toutes sortes de catégories de personnes, pour tout âge, pour toute catégorie sociale, pour toute ethnie, et on est en train de retrouver cette dimension apostolique. J'aimerais vraiment parler de ça. J'ai parlé de base apostolique. Ça veut dire quoi, une base apostolique? En grec, le mot apostolos ou apostello, le verbe, c'est envoyer. Donc quand on dit qu'on retrouve, qu'on est dans une vision apostolique, ça veut dire qu'on envoie. Hein, je veux vous dire, comment... Hein, si, c'est ça, voilà. Mais tu as le droit de ne pas être d'accord, hein, ce n'est pas un problème. Et donc, comment est-ce qu'on mesure l'apostolicité d'une église? Bien, je vais vous dire, en général, on mesure la croissance de l'église en nombre de gens qu'on baptise ou de membres qu'on a dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi? On mesure l'apostolicité d'une église au nombre de gens qu'on envoie. C'est très simple. Ça va? Et il n'y a pas besoin. Nous, je vous racontais qu'on s'est converti à Grenoble. Quand on s'est marié, j'ai rejoint Fabienne dans une implantation d'église à 60 km de Grenoble, Bourgoin-Jallieu. Petite église, il y avait 25 membres. Mais ça n'a pas empêché, c'était une église qui avait une vision missionnaire. À 25 membres, ils nous ont envoyés en mission. Et 2 ans plus tard, un autre couple est parti, le couple des pasteurs. Et 4 ans plus tard, un autre couple est parti. C'était une église de 30 membres, il y avait 3 couples en mission. Donc ce n'est pas une question d'argent, de nombre, etc. C'est une question de vision. C'est une question de comprendre. Et l'Église française est en train de retrouver ça. Et il me semble qu'il y a de ces choses comme ça chez vous ici. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Et donc, j'ai pris l'exemple d'Éphèse. Vous avez remarqué, il y a un joli temple. On va y revenir tout à l'heure. C'est le temple d'Artémis, qui était l'une des sept merveilles du monde, qui était à Éphèse. Ça va vous situer le contexte, comment cette église s'est développée. Mais j'aimerais lire avec vous dans Actes 19. Non, pas ce matin. Donc, Éphèse, juste pour vous dire, Éphèse, vous voyez, c'est en Turquie. Hein. Éphèse, donc, c'est en Turquie actuelle. La ville, on a retrouvé les vestiges. Hein. Il y a l'amphithéâtre qui était extraordinaire, extrêmement grand. Et j'aimerais donc, c'était assez loin de Jérusalem. Et j'aimerais qu'on lise dans Actes 19. Paraphraser, pour ne pas aller trop dans les détails, Paul arrive dans cette ville. Donc, je reviens en arrière.
Voilà.
Paul arrive dans cette ville, il a cheminé à pied à travers ce qui est aujourd'hui la Turquie. Et donc, il est dit qu'il arrive là. Il était déjà passé une fois ici, il s'était arrêté, mais il n'avait pas fait long feu. Il était juste en transit. Et puis, il trouve en arrivant une poignée d'hommes croyants. Une poignée d'hommes qui avaient entendu le message de l'évangile, mais pas vraiment complètement. Ils avaient entendu, ils étaient même baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Donc, ils n'avaient vraiment pas reçu toutes les notions de l'évangile. Hein, il a rencontré donc quelques disciples. Et puis, vous savez, Paul, c'était un homme qui avait du discernement. Il leur a posé la question qui tue. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Et là, ils ont dit, c'est qui ? Sa vie dans l'eau, c'est quoi ? Hein, donc, ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et donc, Paul va leur transmettre, hein, là, va les enseigner réellement de l'Évangile, donc de ce qu'on a chanté là tout à l'heure, de la réalité du sacrifice de Jésus. J'aimerais vraiment insister encore là-dessus, c'était très fort au moment où on a chanté ce dernier chant, là, sur ce sacrifice qui nous délivre, qui nous lave. La mort de Jésus sur la croix, ce n'est pas simplement un événement historique, c'est le fondement de notre foi chrétienne. Sa mort et sa résurrection. Vous ne pouvez pas dissocier la mort de la résurrection. Mais il fallait que le sang innocent soit versé. Il fallait que le sang d'un homme sans péché soit versé pour payer la dette de nos péchés à tous. Amen. Et Jésus n'est pas resté dans la mort. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Si Jésus était resté dans la mort, on n'aurait aucune preuve que son sacrifice était accepté. Et c'est parce que Dieu l'a ressuscité, puis l'a élevé 40 jours plus tard, à la droite de Dieu. Il est dit qu'il lui a donné tout pouvoir, toute autorité. Donc nous prions un Jésus vivant. Oui, on célèbre un Jésus mort pour nos péchés, mais nous célébrons un Jésus vivant, qui règne, qui a toute autorité. J'aimerais vous le dire, vraiment que ça s'enfonce comme un clou dans nos cœurs ce matin. Il a toute autorité sur toutes circonstances. Il règne sur le monde, mais il règne sur chacune de nos vies. Il a le souci du global, mais il a aussi le souci du détail. L'infiniment grand est l'infiniment petit, le privé, tout ce qui nous concerne. Et il y a une puissance, je le répète encore, il y a une puissance réelle dans le sang salvateur de Jésus. Dans l'Apocalypse, c'est écrit à un endroit, ils l'ont vaincu, le diable, hein, l'ennemi de nos âmes, l'accusateur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais la première chose, c'est à cause du sang de Jésus. Quand vous êtes agressé, attaqué, culpabilisé, honteux, tout ce que vous voulez de ce qui peut se passer dans votre vie ou de ce qui s'est passé, le sang est une arme de victoire. Et c'est une puissance réelle qui nous lave. Ça, le monde ne connaît pas. Je ne veux pas en dire plus là-dessus, mais Paul a prêché cet évangile-là aux premiers Éphésiens. Et il est dit que, je lis dans Actes 19, donc, il est dit que ces hommes ont entendu, verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ces hommes étaient au nombre de 12. 12 personnes baptisées dans l'Esprit, baptisées d'eau, baptisées dans l'Esprit, transformées par la puissance du Saint-Esprit, vont changer une région tout entière. Vont aller très loin. Juste pour l'anecdote. Vous voyez où c'est Éphèse ? Vous voyez Rome ? Ma carte n'est pas complète. À gauche de Rome, il y a la France, enfin la Gaule à l'époque. Un peu plus à gauche. J'ai vécu 3 ans à Lyon. en l'an 177, il y a eu 48 martyrs à Lyon. Il y a un amphithéâtre, pour ceux qui connaissent Lyon, qui est à la Croix-Rousse, qui a été exhumé, où là, on mettait les premiers chrétiens aux fauves, où on les brûlait. Vous avez peut-être entendu parler de Blandine, si vous avez de vieux souvenirs de votre histoire de France. Hein, c'est une... Donc, il y a eu 48 martyrs à Lyon en 177. Pourquoi ? Parce que depuis Éphèse et depuis Smyrne, des commerçants turcs ont traversé la Méditerranée. Ils ont remonté le Rhône et ils sont venus s'installer à Lugdunum. La première église française, vous avez peut-être jamais fait attention, mais l'archevêque de Lyon est primat des Gaules. C'est-à-dire qu'il est plus important que celui de Paris. Pourquoi ? Parce que le foyer du christianisme en France, le premier, c'est Lyon. Avec les martyrs de 177 qui ont écrit une lettre à leurs frères de Smyrne et d'Éphèse. Et cette lettre, elle est contenue dans le premier livre qui raconte l'histoire de l'Église après les Actes des Apôtres, qui s'appelle « L'histoire ecclésiastique d'un certain Eusèbe de Césarée », publié en 327. C'est vieux, hein ? Mais si vous aimez l'histoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis Éphèse et le travail que Paul a fait, ce qu'on va voir là, l'Évangile est venu jusqu'en Gaule, jusqu'à chez nous. D'ailleurs, vous êtes sur la route de Lyon, non ? Il me semble, par le Rhône. Hein ? Donc vous avez dû simplement certainement être impacté par là, à travers, par ces gens-là. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, ça me réjouit beaucoup. Pourquoi ? Parce que nous, les chrétiens français, aujourd'hui, notre origine, elle vient des chrétiens turcs. Waouh ! Qui sont 99% musulmans aujourd'hui. Ça nous donne un sens de l'histoire un peu différent de ce qu'on écoute sur BFM TV ou au journal de 20h. Ça nous donne une autre approche. Donc, qu'est-ce qui se passe à Éphèse ? 12 hommes transformés par la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous donner 4 points ce matin sur pourquoi Éphèse est devenue une base apostolique et pourquoi Dieu est en train de créer dans notre pays de nouvelles bases apostoliques. C'est-à-dire des églises qui ont une vision pour leur région, pour leur pays et au-delà, et des églises qui le vivent, qui le mettent en pratique. Parce qu'en général, beaucoup d'églises ont la vision, mais très peu le pratiquent. C'est comme dans la vie des chrétiens, souvent. On en a plein la tête. On a entendu tellement de sermons, tellement de prêches, et vous en avez un de plus ce matin. Mais qu'est-ce que nous activons dans nos vies ? Et c'est ça, c'est vraiment important de mesurer ce que nous sommes capables de pratiquer par rapport à tout ce que nous savons. Vous savez, je vous parle, mais je me parle, parce que tellement de fois, je me dis, Seigneur, depuis le temps, ça fait 45 ans que je suis converti, que j'entends, que je lis, etc. Et le jour où je vais passer devant toi, mais qu'est-ce qui va rester ? Quel va être mon poids devant toi ? Actuellement, c'est 58 kilos, mais mon poids dans l'éternité. Hein, c'est important qu'on puisse s'arrêter sur ces choses-là. Donc, on voit, première chose qui marque l'église d'Éphèse, c'est le surnaturel. C'est la puissance du Saint-Esprit en action pour changer les vies d'abord. Mais aussi pour des miracles, pour des choses qui ont marqué la ville, et on va voir pourquoi. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient. Vous avez réfléchi à ça ? Des miracles extraordinaires. Moi j'aime ça. Un miracle, vous avez des miracles ordinaires ? Par définition, un miracle, c'est extraordinaire, non ? C'est surnaturel. Donc, Paul, Dieu utilisait Paul pour faire des miracles extraordinaires. C'est puissant, non ? Hein ? Donc, alors, voilà, il y a une histoire de mouchoir ici, j'insiste pas là-dessus, c'est pas une doctrine, hein, mais il y a ce que je vois dans ce qui se passe dans cette église d'Éphèse, c'est 3 choses. La puissance du Saint-Esprit en action. Amen. Par des miracles, par des guérisons et par des vies changées. 2, j'ai affiché ça, Paul les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce qui était prêché, ce n'était pas seulement le salut individuel, c'était une vision large du royaume de Dieu qui vient envahir la terre. Et qui venait envahir Éphèse. On va voir tout à l'heure pourquoi, parce qu'on va voir qu'avant qu'arrive Paul, il y avait d'autres puissances qui régnaient sur la région. Et Paul va être confronté à elles à un moment. Mais là, pour l'instant, donc, il prêche le royaume de Dieu. L'évangile que nous prêchons, il touche la société. L'Église n'est pas un bocal dans lequel on s'enferme et dans lequel on vit notre vie simplement entre nous. L'Église, c'est juste une base d'envoi pour aller éclairer le monde. Il y a beaucoup de lumière au milieu de vous ce matin. Vous savez pourquoi ? Parce que normalement, on est la lumière du monde. Amen ? Mais quand on est ensemble, il y a beaucoup de lumière, parce que la lumière est toute contenue à l'intérieur. Là. C'est très lumineux ici ce matin. Vous n'avez pas l'air convaincu, hein ? Mais quand on est tous ensemble, la lumière se renforce. On est vraiment très renforcé en lumière. Mais le but, c'est qu'on se renforce pour aller éclairer là où c'est noir. Là où c'est ténébreux. Là où les gens ne veulent pas aller parfois. À peu près. À peu près. Il y a de la couleur. C'est bien, il y a de l'interaction. On voit qu'il écoute. Hein. Il sait de quoi je parle. Hein. Ok. Donc... C'est important qu'on comprenne ça. Il y a une vision du royaume. C'est-à-dire que l'Église, elle est une puissance, une ambassade du royaume de Dieu dans la société. C'est-à-dire que dans nos milieux de travail, c'est-à-dire que dans nos lieux où nous habitons, peut-être dans le club de foot où vous êtes, ou je sais pas quoi, ou autre, hein, selon votre âge, et selon vos forces et vos goûts, ça veut dire que là, on est la lumière, on est la présence de Jésus au milieu de ce monde. Paul a transmis à ses premiers croyants une vision très large du royaume qui progresse sur la terre et qui va là où parfois c'est extrêmement ténébreux et où c'est extrêmement difficile d'annoncer l'évangile. Et puis il est dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en force. Amen. L'esprit est indissociable de la parole. Il faut qu'il y ait les deux dans la vie de l'Église. Il faut qu'il y ait la manifestation de l'esprit, mais il faut de l'enseignement solide. Il faut que les gens soient ancrés dans la parole. Parce que quand vous êtes là, ok, il y a une super onction du Saint-Esprit, mais quand on est au quotidien dans son lycée, dans son université, dans son lieu de travail ou dans sa maison, et ce qu'on a à faire, c'est beaucoup moins facile. Il y a beaucoup moins, il n'y a pas forcément l'ambiance, il n'y a pas forcément l'atmosphère. Et c'est là où notre enracinement dans la parole est capital. C'est quand on est dans l'adversité, comme ça a été chanté au début, c'est quand on est face parfois à des murailles, face à des oppositions, c'est là qu'on doit être ancré dans la parole. Parce que là, il n'y a plus l'émotion. Il y a toujours le Saint-Esprit en nous, on est OK, mais c'est la parole et notre appui sur la parole qui va faire la différence. Vous voyez cet équilibre, hein, ces trois choses qui a transformé la communauté d'Éphèse. Premièrement, la puissance du Saint. Alors, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. La puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prédication du royaume. Est-ce qu'il y a ça dans notre Église aujourd'hui ? Amen. Hein ? Et est-ce que ces choses-là sont équilibrées ? C'est-à-dire qu'elles vont ensemble. Alors, il y a peut-être des moments où on va peut-être mettre plus l'accent sur l'action de l'Esprit parce qu'on sent qu'il y a besoin de rebooster un petit peu. À d'autres moments, ça sera plus l'enseignement parce qu'on sent que les gens ont besoin d'être formés, ancrés, etc. Mais ces choses-là doivent être régulièrement revues. Donc, il y a ça, ça c'est la base d'Éphèse. Et puis, qu'est-ce qui se passe derrière ? Je vais essayer d'avancer, s'il veut bien. Il faut que je regarde là-bas. Excusez-moi, c'est coincé. Non, voilà. Il va y avoir... là, ça a avancé très vite. Oula, oui, ça a avancé très très vite. Et puis, on lit la suite. Verset 9. « Quelques-uns restaient endurcis et incrédules, et ils décriaient devant la multitude la voix du Seigneur. Alors Paul se retira, il prit les disciples à part, c'est ce que vous voyez ici, il sépara les disciples, et il enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Il se passe quelque chose ici. C'est la deuxième étape. La première, c'est les conversions profondes, des gens transformés, des gens ancrés dans la parole, des gens qui vivent la réalité du royaume. Et la deuxième étape, c'est la formation de disciples. C'est le fait de faire des disciples qui multiplient des disciples, qui reproduisent des disciples, etc. etc. Jésus a dit « Allez !» Faites des disciples. Il n'a pas dit faites des membres. Il n'a pas dit faites seulement des baptisés. Hein. Il a dit de baptiser, d'enseigner. Mais il a dit faites des disciples. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'un des enjeux majeurs pour l'Église en France aujourd'hui, c'est que nous soyons des disciples qui multiplient les disciples. Et pour être très honnête, quand on a été confinés, puisqu'on vient de fêter les 5 ans du confinement, quelle gloire ! Mais le confinement a révélé que dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de membres ou de spectateurs, très peu de disciples. Et ça nous a remis en cause. Et depuis, beaucoup d'églises travaillent là-dessus. Hein, j'accompagne plusieurs églises, mais j'ai vu comment l'épisode, qui a d'abord été extrêmement difficile à vivre, et où il y a eu, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais il y a beaucoup d'églises qui ont perdu à peu près 30% de leurs membres, hein, suite au Covid. Des gens qui sont partis ailleurs ou qui sont partis tout court. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un manque profond d'enracinement. Un disciple, hein, par définition, c'est un apprenti. C'est quelqu'un qui apprend auprès d'un autre. C'est pour ça qu'il est dit de faire des disciples, de multiplier les disciples. Parce qu'on grandit pas seulement par l'enseignement, on grandit par le modèle, par la modélisation. Hein, c'est le principe de l'apprentissage. Moi, j'ai un père qui était menuisier, artisan. Il est décédé maintenant depuis 3 ans. Mais pendant toute mon enfance, j'ai vu mon père artisan. Il avait 2 ouvriers. Mais je l'ai vu, je voyais des apprentis qui débarquaient chez lui à 15 ans, hein, des gars qui passaient le CAP. Donc, ils arrivaient, ils ne savaient rien faire. Ils faisaient 2-3 ans d'apprentissage. Et puis, ils obtenaient le diplôme. Et puis, certains restaient, ils devenaient des ouvriers qualifiés. Mais surtout, ce qui était le grand succès de mon père, c'est quand quelqu'un qu'il avait formé comme apprenti devenait ouvrier, puis qu'au bout de quelques années, il disait « Écoutez, moi je vais aller ouvrir ma propre entreprise à une quinzaine de kilomètres ou à 20 kilomètres, là où j'habite. » Et il allait reproduire lui-même ce qu'il avait appris au bout de quelques années. Vous suivez le principe ? Ça, c'est l'apprentissage. Je voudrais vraiment vous défier ce matin. Est-ce que vous formez des disciples ? Premièrement, peut-être, est-ce que vous êtes disciple ? Et deuxième question, qui formez-vous ? Est-ce que vous imaginez, on est combien ce matin là ? Imaginez, on est 150 là, à la louche, hein, comme ça, sans les enfants. Imaginez, on est 150 là. Je vous dis ce matin, 23 mars, est-ce que si chacun de nous, on prenait l'engagement en un an de former un disciple ? C'est faisable, non ? C'est pas la mer à boire. Hein, ce matin, alors peut-être certains, vous êtes certainement déjà dans le cursus, mais imaginez ce matin, vous priez, vous dites « Seigneur, montre-moi, qui est-ce que je peux former ? Dans qui est-ce que je peux m'investir ?» Et donc, vous faites ce chemin, vous savez qu'on a aujourd'hui plein d'outils, vous allez dire « Mais moi, je ne sais pas faire un disciple. » très bonne réponse. Il y a plein d'outils aujourd'hui pour faire des disciples. Je n'ai pas le temps ce matin de vous en parler, mais on a plein de, soit par vidéo, soit par des livrets, hein, on peut amener des gens qui ne connaissent rien à l'évangile ou des gens qui débutent. On a toutes sortes de moyens maintenant, en 6 leçons, en 8 étapes, en 10 sessions, comme vous voulez, avec des outils vidéo, des outils écrits qui permettent, même si nous on ne sait pas faire, de partir et de former des disciples. Imaginez que chacun ce matin, vous vous engagez, moi avec vous, à se former un disciple. Et je vous donne rendez-vous le 23 mars l'année prochaine 2026. Et je vous dis, venez ici, amenez votre disciple. C'est faisable, non ? Un ou une. Hein, les plus doués, vous allez en prendre 3 ou 4. Il y aura peut-être de la perte en route, donc vous en amènerez 2 ou 3. Mais simplement, si chacun, on amène notre disciple l'année prochaine. Premièrement, on ne pourra pas tous rentrer. Et si on est 150 ce matin, on sera combien l'année prochaine ? 300. Okay ? Juste parce que chacun a formé un disciple, sans même compter tous les événements d'évangélisation que vous allez faire, etc. Mais on sera 300. Et l'année prochaine, 23 mars 2026, on répète l'opération. Chacun, on s'engage, les 300, à former un autre disciple, c'est-à-dire juste quelqu'un qui est un peu moins avancé que vous. Et dans 2 ans, on se donne rendez-vous. On sera combien ? 600, il faudra faire le culte sur la grande place qui est devant vous, là, dans le grand parc, là, hein, parce qu'il fera beau et on n'aura pas de place ici. Et puis vous reproduisez, ça s'appelle, s'il y a des mathématiciens ici, ça s'appelle une exponentielle, simplement. Vous savez, je ne l'ai pas noté ici, hein, mais on a fait simplement une étude, que si moi, cette année, je fais un disciple, l'année prochaine, on sera 2. Dans 2 ans, on sera 4, etc. Hein. Dans 25 ans, on sera 67 millions et quelques. Juste par ce principe-là. C'est-à-dire que la France sera disciplée. Et dans 33 ans, nous serons 8 milliards 700 et quelques millions. La Terre sera disciplée. C'est pas simple. En 33 ans, toute la Terre est disciple. Juste si chacun forme un autre en un an. Hein, je rêve, hein, parce que la Bible nous dit clairement que la Terre sera jamais toute disciple. visiblement, il y aura même beaucoup d'opposition à la fin des temps avant le retour de Jésus. Mais juste ce principe, si chacun en forme un autre, j'aurais pu vous afficher le graphique, hein, c'est vraiment, ça part tout doucement, mais ça monte en flèche après. Ça s'appelle une exponentielle. Donc, simplement pour vous dire que l'Église avait compris ça au début, je voudrais quand même vous dire que si on est là aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est parce que les premiers ont compris ça, qu'on multiplie comme ça dans le 1-1. Nous, dans notre société occidentale, on est devenus fans des grands chiffres et des grands rassemblements. Alors, je ne suis vraiment pas contre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça fait du bien, parfois, d'être dans une grande foule de 5000 où on adore Jésus ensemble dans un stade. J'ai vécu ça. Je sais quelle puissance ça. Mais si on revenait simplement aussi aux bases, en disant chacun en forme un autre, et juste pour votre information, j'ai vu beaucoup d'enfants tout à l'heure, vos disciples sont dans votre maison, hein, les parents. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin, hein, ok ? D'accord ? Et donc, mais ça veut dire que simplement si on fait ce principe-là qu'ils avaient compris, Paul a séparé les disciples et ils se sont multipliés. Les historiens ont étudié cette question-là. Hein, ils estiment, les plus pessimistes disent qu'à l'époque, ce qui se représente aujourd'hui, une grande partie de la Turquie, les plus pessimistes disent qu'il y avait à peu près 6 millions d'habitants, les plus optimistes disent 13 ou 15 millions. Donc vous voyez, on a du mal à faire des statistiques à peu près exactes vu les chiffres de l'époque, mais ça dépend si c'est la préfecture ou la police qui vous donne les chiffres. Hein, ça change aujourd'hui. Mais en tout cas, Paul a séparé les disciples. Il a formé des disciples là sur place. Il a compris ce principe qu'on voit dans ce schéma-là. C'est que la croissance, elle est liée à la multiplication de disciples. Vous voyez sur le schéma ici, je ne sais pas si j'ai un pointeur, mais à gauche, vous avez les disciples dans l'Église. Et quand on forme beaucoup de disciples, on a un réservoir naturel de beaucoup de responsables et de leaders, comme j'ai vu dans votre Église depuis un an. Vous auriez dû dire amen. Donc, quand on a beaucoup de disciples, on a un réservoir de gens qui vont pouvoir monter en responsabilité. Des responsabilités diverses. Je l'ai dit, c'est une vision royaume de Dieu. Certains seront dans l'Église, d'autres seront responsables pour des choses qui se passent dehors. Sociales ou autres, comme j'ai entendu un peu tout à l'heure, évangélisation, tout ce que vous voulez. D'autres auront des responsabilités dehors. Et quand on a de nombreux responsables et leaders qu'on forme, on va pouvoir ouvrir des groupes. Des groupes dans les maisons, des groupes dans des nouveaux lieux, etc. Et par voie de conséquence, des églises plus tard. Ça va ? Oui, vraiment, c'est très simple. Hein. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Hein. Souvent. Et donc, quand on a des groupes et des églises qui multiplient à partir d'un moment, on a ce qu'on appelle un mouvement de croissance. Pour votre info, il y avait à Séoul, Corée du Sud, en septembre dernier, le mouvement de Lausanne. Je ne sais pas si certains de vous ont entendu parler de ça. Donc, un grand mouvement mondial qui dure depuis 1974. Donc, 2024, c'était les 50 ans. Ils étaient à Séoul. Il y avait là-bas 5000 représentants de grandes dénominations et de mouvements missionnaires du monde. Ils se retrouvent tous les 20 ans à peu près. Et il y en avait 5000 autres en visioconférence. Et ils ont étudié ce qu'on appelle les mouvements de multiplication de disciples. Et ils ont dit deux choses. Hein. Leur rapport est très intéressant à lire. Si vous pouvez télécharger ça sur le site du mouvement de Lausanne, c'est vraiment très intéressant, un truc de 120 pages avec des graphiques. Et c'est une analyse du christianisme sur la terre actuellement. Donc ils ont dit que là où l'Église grandit le plus vite, c'est où il y a des mouvements de multiplication de disciples. Il y a environ 100 millions de chrétiens actuellement depuis 20 ans qui sont sortis de ces mouvements-là. Et c'est là où l'Église grandit le plus vite. Là où on multiplie les disciples. Et ils ont dit deux, et ça nous concerne, ils ont dit en Occident, donc chez nous en France, en Occident et aux États-Unis, le défi le plus grand, c'est justement que les églises multiplient les disciples. Parce que, comme je vous le disais, dans les endroits de l'islam, dans les endroits où il y a de la persécution, dans certains endroits d'Afrique, des pays du Sud ou en Inde, où je suis allé plusieurs fois, ça, c'est comme ça que l'Église grandit. Ils ne se posent même pas la question, parce qu'il n'y a pas d'église bâtiment. Il n'y a que des mouvements de multiplication clandestins qui grandissent comme ça, hein, ou plus ou moins officiels, qui grandissent en souterrain et qui font que l'Église avance très, très, très vite. Est-ce que vous me suivez ? Ils ont fait l'étude. Ils ont dit qu'aux US, pourtant les églises US sont connues, il y a plein de bouquins qui sortent là-dessus, ils disaient qu'aux US, seulement 5% des églises savent faire des disciples. Je ne sais pas ce que ça donne en France, parce que personne n'a jamais osé faire des études comme ça en France. Hein, donc, on ne sait pas. Mais pour vous dire, donc c'est un enjeu. Et si on part, je veux dire, souvent on veut ouvrir des églises. On veut former des leaders, c'est excellent, mais si on n'a pas commencé par former des disciples, on est cuit. On est cuit. C'est que si on ne commence pas par le début, on va être coincé devant. Alors on pourra, à la limite, bien sûr, on pourra ouvrir une église ou quoi, mais il n'y aura jamais un mouvement de multiplication. Il y aura peut-être de la croissance qu'on appelle par addition, mais jamais par multiplication. Et Dieu veut nous emmener dans ces choses-là. Parce que, je le répète, la fenêtre sur l'Occident et sur la France, elle est réduite. Elle peut être de 5 ans, tant mieux si elle est de 10 ans ou 15, mais on n'en sait rien. Honnêtement, vous ne savez pas dans 3 ans, 4 ans, qui nous gouvernera. Et vous ne savez pas comment ça sera de nos belles démocraties. Fin de parenthèse. Donc, la deuxième chose que Paul a fait, c'est la multiplication de disciples. Et puis j'arrive, je vois que l'heure tourne. La troisième chose, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a eu à Éphèse, hein, et ça c'est un phénomène général, quand l'Église grandit, tôt ou tard, il y a une confrontation avec le monde spirituel. Et à Éphèse, donc, je crois que je l'ai écrit, donc on le voit ici, il est dit qu'à un moment, que quand l'Église a grandi, c'est le verset, Voilà. Il est dit que beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Donc un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. À un moment, il y a eu un mouvement de conversion de disciples, mais dans Éphèse, c'est là que la photo doit arriver, vous aviez donc, c'était un centre mondial de paganisme et d'idolâtrie. Il y avait donc à Éphèse, ça c'est une reconstitution d'époque, le temple de Diane, qui était une des 7 merveilles du monde. Et donc, comme c'est écrit, vous lirez l'acte 19, hein, à un moment les gens vont dire, mais c'est un lieu de tout le monde, où tout le monde entier venait adorer cette déesse-là. Chez les Grecs, Artémis, c'était la déesse de la chasse. Diane, la Diane des Latins, donc des Romains, était aussi une déesse de la chasse, mais aussi de la fécondité. Donc dans ce temple, il y avait des prostituées sacrées. C'est-à-dire que dans les rites, non seulement on offrait toutes sortes de sacrifices, mais les hommes venaient s'unir à des prostituées sacrées pour symboliser la fécondité et pour obtenir la bénédiction. Bref, il y avait une idolâtrie et une débauche terrible. Et c'est là que l'Évangile a gagné du terrain. Amen. Moi, ça me donne de l'espoir, parce que dans un monde occidental complètement déchristianisé, de plus en plus paganisé, parce qu'on fait remonter des vieilles coutumes. Hein. Je me rappelle, on habitait dans une ville à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, il y a 30 ans, hein, 40 ans. À côté de chez nous, il y avait un druide. Panoramix, non, enfin, il s'appelait autrement. Mais il y avait un druide, je ne savais même pas que ça existait encore. Mais je me suis rendu compte que dans beaucoup d'endroits, on a fait ressortir plein de vieilles coutumes. Bon, si vous habitez en campagne, vous avez des rebouteux, des gens qui chassent le feu, plein de machins occultes, des gens qui ont des dons, ils ne savent pas d'où ça vient. Et puis, depuis le New Age, on a greffé dans notre monde toutes sortes de coutumes orientales, du Sud, etc., qui ont des noms savants, parapsychologiques, etc., paramédicaux même, hein, qui viennent et qui subtilement emmènent les gens dans d'autres croyances. On est dans un monde réellement païen. Les gens payent très cher pour embrasser un arbre pendant 3 heures dans la forêt pour recevoir de la puissance. Ça, c'est notre monde. On est d'un côté très cartésien, on croit que ce qu'on voit. Je ne sais pas qui vous êtes ce matin, mais il y a quelqu'un ici. Vous croyez, vous êtes très intello, hein, on vous a formé comme ça, on croit que ce qu'on voit. Mais les mêmes personnes qui refusent Dieu en disant non, c'est des histoires, le christianisme c'était bon pour le Moyen-Âge, c'est eux qui vont embrasser les arbres et qui payent très cher pour avoir de l'énergie dans un platane ou je ne sais pas quoi pendant 3 heures. Ou quand ils sont malades, et que la médecine vous dit on ne peut plus rien, ils vont traverser le monde pour aller voir un radiesthésiste, un guérisseur de chez Padou qui vous fait des tours de passe-passe. Et c'est même pas remboursé par la sécu. Mais on est comme ça dans notre monde. J'aimerais vous dire, Jésus est la réponse. Amen. Jésus est la réponse, qu'on soit psychiquement ou physiquement ou émotionnellement en difficulté, il y a réellement une puissance dans l'évangile de Jésus. Et on voit ici donc que Paul s'est trouvé confronté. Regardez ce que disent, il y avait donc des... Vous savez, là où il y a l'idolâtrie, il y a l'argent. Là, donc, à Éphèse, il y avait des orfèvres, des artisans qui fabriquaient des petites des petites statuettes, des petits temples, hein, porte-bonheur pour ramener chez soi. Parce qu'on venait, ils faisaient le pèlerinage à Éphèse une fois dans leur vie, mais après, il fallait ramener de l'eau bénite ou, du, hein, ou des petits gris-gris comme ça pour avoir la bénédiction chez eux. Donc, il y avait tout un commerce qui était fait autour de l'idolâtrie. Et quand les gens ont commencé à se convertir et à abandonner leurs idoles, quand les gars sont venus brûler leurs bouquins de magie, waouh, il y a eu chute économique. Et il y a eu révolte. Ils ont fait une révolte dans la rue. Je pense qu'il y avait quelques Gaulois parmi eux qui leur ont bien monté la tête. Et donc, il y a eu une révolte des orfèvres. Et regardez ce qu'ils disent. Vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, c'est pas non seulement que notre industrie tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Vous voyez que l'histoire de la révolte des orfèvres, c'est pas simplement une manif de gens mécontents dans la rue, c'est une révolte spirituelle. C'est derrière, il y a une puissance qui est en réaction. Est-ce que vous comprenez ? J'aimerais juste vous dire, Église Connect, que si vous prenez de l'importance dans cette région, si vous grandissez, si vous multipliez, à un moment ou à un autre, vous allez être confronté aux puissances spirituelles qui sont sur ces lieux. Moi, je ne les connais pas. Hein. Je ne sais pas s'il y a un esprit de nougat sur Montélimar, mais en tout cas, je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas, toutes nos villes, toutes nos régions ont été progressivement envahies par d'autres puissances. Comme à Éphèse, c'était Artémis qui régnait. Derrière le culte d'Artémis, il y avait un culte démoniaque. Vous saisissez ça ? Donc, quand l'Église grandit et quand le nombre de disciples augmente, à un moment, il y a de la confrontation spirituelle. Et j'aimerais vous dire, ne soyez pas surpris, j'ai même envie de vous dire, soyez prêts sur ce terrain-là. Et ici, ce n'est pas seulement une question de chasser les démons, c'est une question de lutter contre des puissances territoriales, spirituelles. Paul a dit, attendez, ça va venir, c'est aux Éphésiens que Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des dominations, des princes dans le monde des ténèbres, des esprits méchants, il est dit, dans les lieux célestes. Paul ne parle pas des démons qu'il a chassés là. Il parle d'autres puissances qui sont invisibles, qui sont dans le monde invisible et qui règnent à cause des cultes mensongers, idolâtres, qui ont été parfois levés depuis des siècles et des siècles dans nos régions. Vous saisissez ça ? Ça, c'est une notion du combat spirituel que l'Église connaît malheureusement très peu. Je vous dis honnêtement, c'est la vie en Afrique qui m'a forgé à ça. Hein. Alors j'étais enseigné dans mon église à Grenoble sur ces trucs-là, mais c'est quand on s'est trouvé, on était en Afrique, alors je vous passe les détails, mais dans des endroits où il y avait encore des cultes à des divinités anciennes. Bien que les régions soient parfois christianisées ou islamisées, ça n'empêchait rien. Les religions animistes étaient toujours latentes. Hein, je me rappelle, des fois, je parcourais la brousse avec le 4x4. Des fois, dans des forêts, on voyait une fois, je suis passé là, il y avait rien, c'était la forêt. Et puis, je vois un hôtel avec des œufs, une table avec des œufs. Et le frère, le pasteur qui était avec moi, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un type qui vend des œufs ici ? Il y a personne. Il me dit, non, t'as rien compris. C'est des offrandes aux dieux locaux. C'était dans un virage dangereux, donc les gens mettaient des trucs pour qu'il n'y ait pas d'accident. Oui, enfin, plein de trucs. Donc j'ai vu comment il y avait des puissances territoriales qui avaient des noms précis selon les divinités qu'on était. Mais on n'est pas différent. On n'est pas différent. Et le monde spirituel travaille tout autant chez nous qu'il travaille dans ces religions là-bas, dans ces endroits là-bas. J'ai l'habitude de dire que j'ai vu en Afrique, j'ai vu en Inde, très souvent, des manifestations spirituelles puissantes, etc. Chez nous, les démons sont à notre image, bien élevés, bien éduqués, sophistiqués. Ils ont pris des noms, mais ils sont là. Et donc, on doit être averti sur la réalité du monde spirituel. Et vous voyez, dans cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Paul a dû quitter la ville. Paul est parti par précaution. Pour préserver sa vie aussi. Ça n'a rien changé. Le Saint-Esprit est resté. Même si Paul est parti, l'Église est restée, le Saint-Esprit est resté. Ils ont continué le travail. Mais ne soyez pas surpris que quand on prend de l'ampleur, que quand réellement le royaume de Dieu s'étend, il y a une bataille spirituelle. N'ayons pas peur. Ça fait partie du jeu. Excusez-moi de mettre le mot jeu. Mais le diable ne nous déroulera jamais un tapis rouge pour qu'on prenne sa place. Donc on doit être averti. Et la quatrième et dernière chose que j'aimerais dire, et je vais aller très vite puisque c'est midi, c'est qu'il y avait un ordre apostolique dans le travail que Paul a fait. Voyez-vous, qu'est-ce que je veux dire par là ? Paul avait un ministère apostolique, il est venu, il était avec, accompagné d'autres dans son équipe, mais quand on le voit dans le chapitre suivant, chapitre 20, Paul est parti, quelques années plus tard, il a rassemblé les anciens d'Éphèse. Donc je vous rappelle qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de bâtiment d'église. Les églises étaient dans les maisons. Ça va ? Les églises étaient dans les maisons, elles avaient des anciens, alors c'est une configuration qui était comme ça à l'époque. Hein, et Paul a rassemblé les anciens et on voit qu'il y avait une étroite collaboration entre cette équipe apostolique de Paul et les gens qui pilotaient les églises locales. Donc ils étaient sous cet accompagnement, sous cette autorité spirituelle qui avait été fondatrice et qui continuait. Quand vous lisez l'histoire, Paul a plus tard envoyé Timothée. Son adjoint, hein, c'est lui qui est venu à un certain moment mettre de l'ordre dans l'église d'Éphèse, etc. Il est venu piloter, nommer des anciens, etc. Donc on voit qu'il y avait tout un alignement entre la vie de l'église locale et un accompagnement apostolique qui était externe. Pourquoi je dis ça ? Parce que si nous voulons grandir, moi j'ai appris ça au fil de mon expérience. Si une église veut grandir, se multiplier, se développer, il faut qu'on fasse partie de quelque chose qui est plus grand que nous. Et qui va nous tirer vers le haut. Est-ce que vous me saisissez ? Et la Bible a donné un nom très précis à ça. C'est ces cinq ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, ces équipes apostoliques qui ne sont pas des équipes qui règnent et qui dominent les églises, mais qui sont là pour les faire grandir. Hein, puisqu'il est dit que ces ministères, ils sont là pour équiper les saints, équiper les croyants et les édifier, édifier le corps. Donc ces ministères-là qui agissent, qui démarrent dans l'église locale et qui sont souvent extra-locaux, sont là pour nous aider et sont là pour nous faire grandir dans quelque chose qui est plus grand. Moi, je travaille dans un réseau apostolique donc qui est basé à Dijon, mais on travaille avec une vingtaine, 22 églises actuellement en France. On a une ramification en Afrique. Mais on voit comment l'accompagnement externe permet aux églises de grandir et puis permet surtout la multiplication d'églises. Et ça nous permet de ne pas être seuls dans nos problèmes, de ne pas être tout seul à gérer nos choses, mais à bénéficier de l'expérience et du conseil de gens qui sont passés là-dedans avant nous. Est-ce que je me fais bien suivre ? Et je suis obligé d'avancer très vite. Mais l'objectif de Paul, et je finis avec ça, c'était de former un peuple apostolique. On a trop souvent pensé que, alors il y a 30-40 ans, on a redécouvert la réalité des ministères et des équipes apostoliques. C'est venu en France, c'était aux US, enfin de l'autre côté de l'Atlantique depuis bien avant, au nord comme au sud, on a redécouvert ça. Mais c'est comme si on a fait du ministère, de la reconnaissance de ces ministères, une fin en soi. Et c'est absolument pas une fin en soi, c'est un moyen pour aider l'Église à grandir. Et en fait, ce qui est important, c'est que le peuple de Dieu, c'est que les croyants aient cette mentalité apostolique. J'ai encore une fois, une mentalité d'envoi, une mentalité d'envoyé. Vous êtes, nous sommes des envoyés du Seigneur dans cette société française. Vous, précisément ici, dans cette région, moi ailleurs. Mais nous sommes un peuple qui a cette mentalité. Ça veut dire qu'on a une vision qui s'étend. On a une vision du royaume, pas seulement de notre église locale, mais on veut voir le royaume de Dieu grandir sur une nation comme la nôtre et bien au-delà par tous les dons et les capacités que Dieu donne aux siens. Amen. Et j'aimerais terminer là-dessus. Je laisse la fin. Je voudrais qu'on s'incline dans la prière. Je rappelle les quatre points ce matin. Et j'aimerais commencer par ça. Est-ce que nous sommes des croyants transformés ? Pas seulement baptisés d'eau. C'est bien déjà. Si tu n'es pas baptisé, je te conseille vraiment. C'est une étape. Mais ce n'est qu'une étape, ce n'est pas le but, c'est le point de départ. Est-ce que nous sommes surtout des chrétiens transformés ? Transformés dans la mentalité. Transformés. Le Saint-Esprit nous défie, la parole de Dieu nous défie constamment dans tous les domaines de notre vie. Et ce matin, c'était le premier point. Mais j'insiste là-dessus. Si tu n'es pas encore passé, ou simplement si peut-être tu t'es habitué à ta vie d'église, j'aimerais te dire simplement ceci. Dieu a beaucoup plus pour toi. Et Dieu a un projet, il veut se servir de toi. Deuxième point, multiplier des disciples. Et je voudrais vous encourager. Je sais que parmi vous ici, le peu que j'ai vu, les fois où je suis venu le samedi, je sais qu'il y a plusieurs, vous êtes déjà dans le discipulat depuis longtemps. Mais est-ce que vous multipliez? Est-ce que vous reproduisez? Est-ce que vous investissez votre vie dans d'autres? Parce que c'est ça le discipulat. C'est s'investir dans d'autres. Ça demande du temps. Ça demande beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement personnel. Mais j'aimerais vous dire, ça vaut la peine. Paul a dit à un autre moment, il a écrit plutôt, ce que tu as reçu de moi, Timothée, transmets-le à des personnes fidèles qui elles-mêmes le transmettront à d'autres. C'est ça la multiplication. Et tout à l'heure, j'ai posé un défi. Je vous le renouvelle. Pendant qu'on est là en prière, qui est-ce que le Seigneur est en train de mettre sur ton cœur? Peut-être quelqu'un qui est loin de Dieu, c'est pas un problème. Quelqu'un qui s'approche, ou peut-être quelqu'un qui est nouvellement converti, peut-être jeune baptisé, qui a envie de grandir, et Dieu te dit, est-ce que tu es prêt à t'investir dans celui-là ou dans celle-là? Et je ne veux pas faire d'appel. Dieu vous parle là où vous êtes. Il est peut-être, et je prie pour qu'il mette un nom, peut-être un visage, peut-être un couple, peut-être une personne précise. Prends ça au sérieux. Et prie pour ça quand tu vas rentrer chez toi. En qui peux-tu t'investir? En qui vas-tu multiplier? Restons en prière.